un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Manéléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes jeudi 28 novembre 2024, il est 6h15, place au journal. Sommaire de l'argent et plusieurs biens de valeur emportés, c'est le bilan d'un braquage dont ont été victimes une cinquantaine de conducteurs taxi-moto dans les parcs nationaux de Kahuzi-Biega. Les présidents de la société civile de Bunyakiri qui a alerté Radio Maïndéléo déplorent le fait que ces bandits aient opéré en toute quiétude sans intervention des forces de l'ordre. Entre-temps, plus de 80 camions remplis de marchandises sont bloqués au niveau de Businga dans l'escarpement de Ngomo. Sur la route Bukavu-Uvira, ces véhicules sont depuis plus de 5 jours suite à l'état de délabrement avancé de cette route. Voilà tout pour les sommaires. Hélène Boudjiriri, c'est mon nom, Jean-Claude Ndaga sur la mise en onde. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Débutons par cette information, le tribunal de paix de Kinshasa Gombe a condamné l'opposant politique Seth Kikuni à une année de prison pour incitation à la désobéissance civile et propagation des faux bruits. Cette décision intervient après son arrestation le 2 septembre et son procès pour des propos tenus fin août à Lubumbashi. Seth Kikuni, président du parti Piste pour l'émergence, a été arrêté le 2 septembre dans ses bureaux par l'Agence nationale des renseignements ANR et détenu 13 jours sans contact avec sa famille ni ses avocats, puis transféré au parquet général de Kinshasa où il a été auditionné. Entre-temps, le président Félix Tshisekedi a répondu au collectif des gouverneurs des provinces réunis à Kalemie pour la 11e conférence des gouverneurs en assurant que les revendications concernant les projets de changement de la Constitution et d'autres préoccupations seront examinées avec attention. Dans sa déclaration à l'ouverture de la 11e conférence des gouverneurs des provinces, Tshisekedi a affirmé avoir pris acte du mémorandum adressé par les gouverneurs, lesquels expriment un soutien unanime à la réforme de la Constitution. Les gouverneurs avaient justifié leur soutien au projet de réforme constitutionnelle en évoquant les faiblesses de l'actuelle loi fondamentale et en qualifiant cette démarche de légitime et salvatrice. Ils ont également invité la population congolaise à s'associer à cet effort qu'ils estiment essentiel pour le développement et la cohésion nationale. Tshisekedi, qui a récemment annoncé la création en 2025 d'une commission nationale chargée de réfléchir à une nouvelle constitution, a promis d'adresser les revendications aux autorités compétentes pour garantir une meilleure prise en compte des besoins exprimés par les gouverneurs. À la même occasion, les tensions récurrentes entre gouverneurs et assemblées provinciales ont été citées parmi les défis qui entravent le développement de Provence. L'absence de cohésion institutionnelle entre les gouverneurs et les assemblées provinciales limite l'efficacité de notre action sur le terrain. Les tensions récurrentes entre ces institutions combinées à la fragilisation du pouvoir traditionnel met à mal l'unité et la stabilité de nos provinces, a déclaré Félix Tshisekedi. À cela s'ajoute, selon lui, une insécurité persistante, source des crises humanitaires et d'instabilité institutionnelle qui affaiblit les fonctionnements des administrations locales, placées sous le thème « Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoire ». Ce forum de 3 jours va passer en revue les enjeux du développement local. Vous l'avez suivi en titre de l'argent et plusieurs autres biens de valeur emportés. C'est le bilan d'un braquage dont ont été victimes une cinquantaine de conducteurs de taxis moto, une œuvre des hommes en armes en plein parc national de Kahuzi-Biega dans la mi-journée de mardi 27 novembre 2024. Alain Kabika nous en parle.
Le président de la société civile Force Vive Sunao de Bunyakiri en territoire décalé, Isaya Benjamin, qui nous livre l'information, explique que plus de 55 conducteurs de taxi-moto ont été pillés lors de ces braquages. À cette occasion, de l'argent et plusieurs biens de valeur ont été emportés par ces bandits qui se sont volatilisés dans la nature. Il déplore de constater que ces bandits aient opéré en toute quiétude, sans aucune intervention des forces de l'ordre. Isaiah Benjamin rappelle qu'en l'espace de 2 mois, plus de 4 braquages ont déjà été signalés sur cette route nationale numéro 3 Bukavu-Kisangani, et malgré les alertes, les mesures peinent à être prises pour sécuriser les usagers. À ce jour, poursuit cet acteur de la société civile, plusieurs familles de Bunyakiri sont contraintes de vivre dans la pauvreté, plus particulièrement les petits commerçants, dont les marchandises étaient chargées à bord de ces motos. Isaiah Benjamin plaide pour la sécurisation des passagers et leurs biens sur cette route.
Il fait plus de 4 fois dans 2 mois successifs qu'il y a des pillages par des hommes non autrement identifiés dans le parc. Et la population souffre beaucoup. Il y a ceux-là qui restent maintenant des pauvres à la maison parce qu'on a déjà pillé de tout ce qu'ils avaient à travers ce pillage qui s'est fait par ces hommes-là. Nous voulons que les autorités puissent s'en occuper de cette situation d'insécurité dans cette route vraiment. Qu'ils puissent nous aider, qu'ils puissent penser à cette population vulnérable de Bunyakiri. Jusqu'à maintenant, on se demande comment les autorités puissent être comme ça. Nous voulons qu'ils puissent s'en occuper vraiment et faire une sécurité là.
Le président de la société civile Force Vive Sunao de Bunyakiri en territoire de Kalehi plaide également pour l'installation des antennes dans et autour du Penkabé afin que cette zone soit arrosée par les réseaux cellulaires.
Merci Alain Kabika. Exactement 6h21 dans les studios de Radio Maendeleo. La suite de cette édition, c'est juste après cette courte pause.
Radio Maendeleo, la radio de proximité. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Comme annoncé en titre, plus de 80 camions remplis de marchandises sont bloqués de part et d'autre au niveau de Businga dans les escarpements d'Engomo sur la route nationale Bukavu-Uvira. C'est suite à l'état de délabrement avancé de ces tronçons routiers en cette période pluvieuse, des flaques d'eau, des bourbiers et des mottes de terre rendant impraticable cette route sont visibles sur les lieux. À en croire notre correspondant qui s'est rendu sur place, seuls les petits véhicules et les motos prennent les risques de traverser les escarpements d'Engomo pour atteindre les centres commerciaux de Nyangezi pour Bukavu. Les usagers de cette route plaident pour l'intervention des autorités dans l'urgence, étant donné que ces camions transportent des vivres et des produits dégradables. Écoutons les témoignages d'un de ces conducteurs qui s'est confié à notre correspondant à Nyangezi, Pacifique Mpamagou.
Il y a 5 jours que nous sommes ici en train de souffrir à cause du mauvais état de la route. Au gouvernement central, nous demandons qu'il fasse ses trous pour que cette route soit réhabilitée. Les Chinois sont ici, qu'ils fassent rapidement la réparation de la route avant qu'ils ne fassent la route proprement dit. Mais aussi au gouvernement provincial, on peut demander l'office des routes ou même demander les Chinois qu'ils travaillent d'abord provisoirement en attendant qu'ils fassent un bon travail.
Pendant ce temps, les voyageurs qui veulent se rendre à Uvira, au Burundi et à Kamituga sont, depuis un certain temps, victimes des tracasseries et actes de vandalisme de la part des personnes chargées du marketing ou de la recherche des clients pour les comptes des agences de voyage communément appelées Bakokai à l'essence Major Vangou. C'est ce qu'on peut lire dans une correspondance du mouvement citoyen Observatoire d'action parlementaire et gouvernementale, OBAPE-GRDC, adressé au ministre provincial en charge des transports, avec copie à Radio Maendeleo. Mapendo Linda nous en parle.
Dans cette correspondance, ces mouvements citoyens indiquent que les voyageurs sont souvent brutalisés par ces agents Bakokai qui arrivent jusqu'à ravir leurs bagages par force, tirent les clients par leurs habits jusqu'à blesser certains et d'autres voient leurs biens volés dans cette cacophonie. Obapej parle d'un cas d'une femme qui s'est vue brutalisée alors qu'elle était encore à bord d'une moto. Cette brutalité a été à la base d'un accident grave causant des graves blessures chez la dite femme qui a aussi perdu sa valise. Des voyageurs en partance pour Kamituga voient souvent leurs bagages amenés dans des véhicules qui doivent prendre la direction d'Uvira ou de Bujumbura et vice-versa. Une situation qui accentue les risques de pertes, explique cette structure citoyenne. L'un des militants de OBAPE-GRDC, Amos Bissimwa, demande au ministre d'agir pour mettre fin à ces désordres.
Voilà pourquoi nous avons saisi le ministre en lui disant « Vous devez mettre fin à toute cette cacophonie. » Ça nous discrédite aux vies des visiteurs qui viennent à Bukavu, aux responsables de ces agences de voyage. dédiquer leurs agents, qu'ils aient même des gilets par lesquels les voyageurs peuvent les identifier, sachant que telle est de telle agence et c'est celui qui a commis ces bavures. Parce que même avec ceux qui s'y opèrent actuellement, il y a des escrocs et des voleurs qui se font passer comme des bakokai. Tout ça, c'est un désordre. Nous avons même demandé au ministre qu'il y ait des programmations pour éviter ces désordres. Et à la police, on a dit, vous avez comme mission régalienne de protéger la population, c'est bien, mais aussi sécuriser la population.
Il demande par ailleurs au ministre d'instruire les responsables des agences des voyages de recenser leurs agents en leur dotant des gilets pouvant permettre aux voyageurs de les identifier et de réguler ces secteurs. Contacté, le ministre provincial du transport confirme avoir reçu cette lettre et promet son implication personnelle et une descente sera effectuée sur le terrain afin d'étudier les mesures adaptées pour protéger les voyageurs.
Permettez-moi de parler autre chose, mais non, le parc national de Kahuzi-Biega avec ses gorilles des plaines, la réserve de Katogota avec ses hippopotames, les centres de réhabilitation des primates de l'Uiro, les lacs Kivu et Tanganyika ainsi que l'île d'Idjui sont parmi les potentiels culturels et touristiques qui regorgent le sud Kivu et qui devaient contribuer à son développement, ses potentialités. Et tant d'autres sont présentés par le ministre provincial en charge du tourisme et de la culture, Catherine Balemba Chidjanga, qui représente le Sud Kivu à la semaine de la culture et du tourisme qui se tient depuis mardi à Kinshasa. Pour elle, au-delà de ses potentialités auxquelles s'ajoute une population travailleuse et la situation sécuritaire calme, devait attirer davantage les touristes et d'autres investisseurs pour qu'ils contribuent au développement du Sud Kivu et créer ainsi de l'emploi en faveur surtout de la jeunesse. Catherine Balemba Chidjanga au téléphone de Radio Maïndéléo.
L'arrivée de notre gouverneur, son Excellence Jean-Jacques Purusi Sadiki, le Sud Kivu est sur le pied des développements. Déjà, il y a le développement qui est là. Alors, nous invitons tout le monde à venir au Sud Kivu. Vous voyez qu'au Sud Kivu, nous avons quand même des organisations comme Primate Expertise. Là, nous protégeons. Il y a des espèces à protéger. Il y a les gorilles dans le parc national de Kahuzi-Biega, que vous-même vous connaissez étant patrimoine mondial. Nous avons des réserves de Katogota où il y a des hippopotames. Nous avons des serpents. Nous avons les centres de recherche en sciences naturelles de l'Uiro. Là, nous avons les centres de réhabilitation des primates de l'Uiro. Nous avons des réserves comme l'île d'Idjui qui est une île deuxième au monde après l'île de Madagascar.
Les travaux de la semaine de la culture et du tourisme, commencés mardi dernier, prennent fin ce samedi 30 novembre. Les thèmes retenus cette année est tourisme et paix. Et comme l'organisation Primate Expertise a été citée, sachez qu'elle célèbre ses 10 ans d'expérience dans la conservation des primates non-humains à l'est de la RDC. À cet effet, elle a organisé un symposium sur les stratégies mises en place en partenariat avec ses partenaires pour la conservation des primates, tout en privilégiant le bien-être des communautés vivant autour de l'habitat de ces primates. Omer Moudikireza nous en parle.
Pour ce premier jour, les échanges ont tourné autour des piliers auxquels se focalise Primate Expertise, notamment la recherche et conservation, la réforestation et l'éducation environnementale. Pendant ces 10 années d'existence de Primate Expertise, plusieurs avancées ont été enregistrées à en croire son directeur exécutif, le professeur Augustin Kanyoni Basabose. C'est notamment dans la restauration des zones dégradées, dans et autour du parc national de Kahuzi-Biega-Plaine-Kabé, la valorisation des connaissances médicinales de peuples autochtones et l'implication des écoles riveraines dans la conservation du PNKB. Le professeur Augustin Kanyoni Basabose en parle dans cet élément.
Mais quand même, pendant les 10 ans, nous avons pu faire quelque chose au niveau du parc national de Kahuzi-Biega. Les appuis que nous faisons sont appréciés par les autorités du parc. À Idjui, déjà, on a construit un bon poste de patrouille pour assurer la sécurité de ces singes. Mais je pense que c'est une bonne réalisation. Mais aussi, nous avons pu donner de l'eau propre à la communauté qui vit aux environs de cette réserve de Yamoussis. Nous avons pu reboiser un bel espace de parc. Nous avons ce pilier-là de reforestation et nous avons pu tout restaurer 300 hectares dégradés à l'intérieur du parc. Et nous avons dans les communautés aussi restauré des terres, des forêts dégradées des communautés.
Dans les échanges, les principales menaces pesant sur les primates non humains seront identifiées et les mesures d'atténuation appropriées proposées aux décideurs. Hormis les PNKB, les actions des primates expertises s'étendent également dans d'autres zones qui abritent les primates non humains, notamment dans la réserve naturelle de Nyamusisi à Idui, la réserve naturelle d'Itombwe et les escarpements de Nyangezi.
Au chapitre santé, la quatrième phase de vaccination contre la poliomyélite pour cette année 2024 débute le jeudi 5 et se clôture samedi 12 décembre 2024 au sud que vous. Elle concerne les enfants de 0 à 5 ans sur toute l'étendue de la Provence et c'est sans tenir compte de leur statut vaccinal antérieur. Cette précision est du docteur Claude Baïziré, chargé de communication à la division provinciale de la santé des PS, mercredi 27 novembre 2024. Au cours d'un briefing avec la presse locale, à l'en croire, cette position est prise après que les cas de poliomyélite soient reportés dans les pays en général et dans la province du Sud Kivu en particulier. En prélude de cette vaccination et pour atteindre les résultats escomptés, les relais communautaires passeront d'abord des portes à porte pour dénombrer les enfants concernés. Ensuite, les équipes de vaccination passeront pour leur donner des gouttes de vaccins anti-polio. Par la même occasion, le docteur Claude Baïziré invite les parents à bien accueillir et faciliter le travail aux relais communautaires. On l'écoute.
C'est le quatrième passage depuis janvier. Ce sera la quatrième fois qu'on vaccine contre la polio. Et on a vu qu'il est important quand même qu'on puisse expliquer les raisons de cette continuité de la vaccination contre la polio. Et alors, et il est important que le parent conjugue encore un effort, s'engage encore et prête les enfants de 0 à 5 ans et pendant les 3 jours de vaccination pour qu'ils reçoivent encore une dose pour qu'ils soient bien protégés. Vous devez savoir aussi que il y a des enfants qui naissent et il y a des enfants qui quittent la cohorte de 5 ans. Et tant qu'on n'a pas dépassé 5 ans, on n'a pas encore assez d'immunité, assez de force pour combattre la poliomyélite.
Il précise que cette vaccination contre la poliomyélite est gratuite car le gouvernement subventionne toutes les charges. Et avec vous, Expedi Kalou, parlons maintenant des anciens vacataires de la Monisco de 2011 à 2015 qui totalise cette semaine, 7 mois depuis le début de leur sit-in à l'ancienne base de la mission onusienne située à Mumba, en commune d'Ibanda. Sur place, ils ont installé un camping de fortune où ils passent nuit et jour exposés aux aléas climatiques pour demander à la Monisco de les rétablir dans leurs droits.
Ils exigent les uns que la Monisco leur paye les différences entre les sommes qui leur étaient remises en termes de salaire et les montants réels contenus dans leur contrat, alors que les autres exigent leur décompte final. Certains vacataires ont signé des contrats de 1 560 $ américains le mois, mais ils ne recevaient que la somme de 192 $. D'autres, par contre, ont contracté pour 1 760 $ américains pour recevoir en fin de compte 240 $. En revanche, 15 femmes d'entre ces vacataires prétendent être victimes des violences sexuelles imputées au casque bleu de la Monusco. Elles auraient été exploitées sexuellement par des agents qui ont usé de leur position dominante, ont-elles expliqué. 4 sont de Bukavu, 9 de Kavumu en territoire de Kabare et 2 d'Uvira dans le sud de la province. Simire Laurence, représentante de ces femmes, plaide pour des indemnisations justes.
Et nous revendiquons nos droits. Il y a l'héritage du contrat de 2011 à 2016. C'est de l'UNOPS, réclame le décompte final et nous les victimes, nous demandons la pension alimentaire pour les enfants, mais aussi ils doivent aussi nous indemniser.
La nouvelle dynamique de l'ancien civil d'ici qui accompagne ces anciens agents exige aux Nations Unies et au gouvernement de se soucier de ces personnes en réglant leur situation sociale. Au terme d'un briefing ce mercredi avec ces anciens vacataires à leur lieu de camping, le président de la NDC, Jean-Chrysostome Kidjana, alerte sur les conditions inhumaines qui traversent ces anciens agents de la mission onusienne en RDC.
Et comme défenseurs des droits humains, nous sommes en train de vouloir attirer l'attention des autorités congolaises. Parce que ces gens, ces hommes, ces femmes sont avant tout des citoyens congolais qui doivent avoir protection de la part de l'État congolais, des autorités congolaises. Et en deuxième lieu, nous sommes en train d'interpeller les responsables de la Monusco. Les Nations Unies devraient être exemplaires. Les Nations Unies, ce sont elles qui prônent le respect des droits de l'homme. C'est incompréhensible que ce soit ces mêmes Nations Unies et qui soient sur la première ligne des violations des droits de la personne humaine.
Jean-Chrysostome Kidjana signale que l'inspection générale du travail à Kinshasa est déjà saisie sur l'affaire, d'où l'appel à la diligence pour remettre ses agents dans leurs droits.
À Idjoui, le conseil territorial de la jeunesse a de nouveaux animateurs. C'est à l'issue des élections organisées le mardi 26 novembre 2024 dans la grande salle du territoire en présence du délégué du ministre provençal en charge de la jeunesse au Sud Kivu, les membres du conseil territorial de sécurité. La société civile et les médias ont aussi assisté à ces élections en présence de Richelieu Biamana, notre correspondant à Idjoui, qui nous propose ces reportages.
Après la présentation des candidats retenus dans ce processus tel que tracé par les autorités provinciales, les grands électeurs des groupements et chefferies du territoire d'Idjoui ont jeté leur dévolu sur Olembe Muliri Freddy, élu à ce jour président du conseil territorial de la jeunesse d'Idjoui. Il sera alors secondé par Bagaya Nyamurane Marcelin. Faradja Zawadi Joyce occupera le poste de secrétaire exécutif et quatre conseils pour appuyer cette équipe. Olembe Muliri exprime sa satisfaction après ces élections.
Cette responsabilité m'est confiée aujourd'hui vaut la dignité de tout le territoire d'Idjoui. Ainsi donc, j'appelle mon comité, tous les frères qui ont été candidats et tous sages de se joindre à nous en conseil pour matérialiser ces bons projets de société que je vous ai présentés. Cette responsabilité nous invite également dans l'étroite collaboration avec l'autorité locale, les partenaires techniques et financiers de la zone, bien sûr, dans l'unique intérêt de la jeunesse du territoire d'Idjoui.
À l'issue de la lecture du procès verbal, Eddy Silim, conseil du ministre provincial en charge de la jeunesse, a directement investi le nouveau comité. Ce comité est appelé à se mettre directement au travail et organiser les élections dans les 6 groupements du territoire et dans les 2 chefferies Tambuka et Rubenga. Richelieu Biamana, Idjoui, Radio Maendeleo.
Et l'atelier régional des restitutions des résultats des projets intégrés de croissance agricole dans les Grands Lacs. Et c'est lui régional de développement agricole intégré dans les Grands Lacs, réalisé en RDC au Burundi, ont été clôturés le 26 novembre à Bujumbura, organisé par l'IITA. Les assises y afférentes se sont focalisées entre autres sur les aspects relatifs à l'impact des activités menées au cours des 5 dernières années, incluant plus particulièrement des bonnes pratiques agricoles en vue de booster les secteurs agricoles à travers ces diverses chaînes de valeurs stratégiques, notamment les riz, manioc et lait, expédie Kalou.
La composante manioc s'est attachée à amener des solutions qui ont permis d'augmenter la production et la transformation des racines de manioc en apportant aussi bien des technologies et méthodes culturales innovantes. S'agissant de l'entrepreneuriat des jeunes au travers de l'agribusiness, l'ITA a fait état de plus de 1520 jeunes qui ont été formés en différentes thématiques relatives aux diverses chaînes de valeur, dont plus de 415 et ont bénéficié des subventions pour le démarrage de leurs activités dans le cadre d'appui à l'engagement de la jeunesse dans l'entrepreneuriat agricole. Des échanges d'expériences pratiques et technologiques entre experts des deux pays ressortent une détermination des intéressés à définir également des stratégies plus approfondies pour pérenniser et mettre à l'échelle les résultats obtenus tout au long de l'exercice du projet dans les zones implémentées. On écoute à ce sujet Jean-Paul Balolesi, coordonnateur ad intérim du Picagel dans la province du Tanganyika.
Nous sommes très satisfaits en tant que projet parce que grâce au Picagel, il y a eu beaucoup de qui ont été menées dans presque l'ensemble de toutes nos chaînes de valeur que nous avons dans le cadre du projet promis, notamment les études qui ont été menées dans le domaine du riz, lait, élevage dans sa diversité et sans oublier le manioc. Il y a une diversité d'études qui ont été menées et aujourd'hui nous avons des résultats qui sont très très satisfaisants.
Même son de cloche de la part du représentant du ministre burundais de l'Agriculture qui a réitéré ses remerciements au nom de toute la communauté burundaise avant d'exprimer le souhait de voir se poursuivre le travail dans une franche collaboration qui a caractérisé les agents du projet des deux pays. Pour le ministre provincial de la Culture au Sud, Kivu, Didier Kabi, ce financement octroyé prouve la détermination de la Banque mondiale à contribuer à l'éradication de la famine sous toutes ses formes dans les milieux ciblés conformément à la vision du chef de l'État.
Grâce au financement de la Banque mondiale, à qui j'adresse ici mes sincères remerciements, renferme pour nous les gros actes, les sauts, les perspectives qu'il convient d'exploiter si nous tenons à évoluer à meilleur escient vers les objectifs fixés et au-delà vers la concrétisation de plusieurs objectifs de développement durable pour nos deux pays. En dépit de tous les défis, les approches inclusives du PICAGEL, bon de résultats probables, constituent des acquis tangibles en cohésion.
Les participants s'attendent à ce que les efforts et initiatives amorcées se poursuivent pour tirer le meilleur parti des acquis du dit projet, ce qui permettra d'améliorer les conditions de vie des communautés locales grâce aux diverses chaînes de valeur.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maëdé Léo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, le championnat urbain de football de Bukavu s'est poursuivi hier mercredi 27 novembre à l'occasion de deux matchs ont eu lieu au stade de la Concorde de Kadutu. Classe Académie s'est offert la Semozende en les battant sur le score de 2-1. Ensuite, à l'occasion du deuxième match du jour, sans trembler, Bande Rouge a battu l'US Safari sur la note de 2-0.
La revue de presse. Radio Maïdé Léo Cap vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
L'ouverture des travaux de la conférence des gouverneurs à Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika, et le séjour de la première ministre congolaise Judith Suminwa à Rabat au Maroc fait la une de la plupart des journaux. Paris, mercredi 27, dans la capitale congolaise, Alain Kabika nommé à musique la revue de presse.
À ce sujet, Congo Nouveau ouvre le bal et titre en sa manchette. Félix Tshisekedi ouvre la conférence des gouverneurs ce mercredi. Cet hebdomadaire signale que le président Tshisekedi est arrivé le mardi à Kalemie pour une visite de 4 jours dans le cadre de la poursuite de sa tournée dans l'espace Grand Katanga. Cet hebdomadaire précise que les points d'orgue de cette visite, c'est la 11e conférence des gouverneurs des provinces du 27 au 29 novembre que Tshisekedi va présider et qui a pour thème « Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local des 145 territoires ». De l'aéroport jusque devant le terrain Maïndé Léo, lieu choisi pour son meeting, note ses portails, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par la population qui est restée mobilisée malgré une forte pluie qui s'est abattue sur la ville. La tempête des tropiques révèle qu'au cours de ces forums, les gouverneurs vont discuter des enjeux locaux et des stratégies à adapter pour renforcer la gouvernance et le développement dans toutes les provinces du pays. Ces quotidiens rapportent que le président Tshisekedi mettra également à profit son séjour pour inspecter divers projets réalisés dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires ainsi que d'autres projets financés par le gouvernement central. Selon Echo News, cette conférence des gouverneurs est généralement l'occasion de passer au peigne fin les grands défis des provinces et d'harmoniser les vues avec les pouvoirs centraux de Kinshasa. Cet hebdomadaire regrette qu'au fil des années, le rendez-vous est devenu presque une routine et ses gouverneurs se réunissent auprès du trésor pour des résolutions qui prendront directement les chemins des tiroirs sans la moindre exécution. Echo News fait remarquer que les résolutions prises lors de ces conférences restent souvent lettres mortes, faute de mécanismes et de suivi efficaces. Pour les nouveaux chefs de province, écrit ses portails, cette conférence sera leur premier baptême des feux. Bref, rien de nouveau ne sortira des calomnies, estime ces tabloïdes. Outre cette conférence souligne la prospérité, l'agenda du président de la République prévoit entre autres l'inauguration du bâtiment de la Banque centrale du Congo et une visite guidée du palais de justice de Kalemie, construit grâce au partenariat avec les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD et la Suède. Ce quotidien indique également que Tshisekedi va accorder plusieurs audiences et présider sur place les conseils provinciaux de sécurité et les conseils supérieurs de la défense et le 24e conseil des ministres. Changeons de chapitre avec le Phare qui fait savoir que la première ministre Judith Suminwa séjourne depuis mardi dernier à Rabat au Maroc où elle a été reçue au palais royal par le chef du gouvernement marocain Aziz Akanouch. Les portails rappellent que cette rencontre s'inscrit dans un cadre plus large de coopération et de partenariat, symbole de la solidarité des relations bilatérales qui remonte à plusieurs décennies entre Kinshasa et Rabat, conclut le journal.
Il est 6h44, c'est la fin de cette édition du journal sur Radio Maïdéléo. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Hélène Boudjéri, c'est mon nom, Jean-Claude Ndagiation, la mise en onde. Une autre édition, c'est à 12h enregistre. D'ici là, vous allez suivre la même édition dans sa version Swahili avec Ricky Yombe. Au revoir.